Donc, je vais ouvrir un petit peu le propos pour vous parler peut-être de façon un peu inhabituelle du développement durable urbain dans des pays de culture non démocratique, donc dans des régimes plutôt autoritaires. C'est plutôt ça, disons, la spécificité un peu du propos. Faisant partie du coup, disons, tordant d'ailleurs au passage un peu le coup au présupposé démocratique qui rend possible le développement durable, qu'on va voir. Il y a un certain nombre de faits, de processus, de mobilisation et d'appropriation du développement durable dans les trois pays, puisque en gros on représente, c'est pas tout à fait vrai, mais chacun un des pays, même si c'est pas tout à fait vrai. Donc j'ai plutôt ici la Syrie, ici le Maroc, que je partage un peu, et puis l'Égypte. Voilà. Notre hypothèse, donc l'idée, c'est donc de voir à l'œuvre, finalement, en acte, le développement durable dans ces trois pays, d'y voir des effets de concordance et de discordance, plutôt de concordance, disons, dans l'arrimage de l'agenda environnemental international à ce que ça produit dans les trois pays en matière d'institutionnalisation du développement durable urbain, donc dans les trois pays, ce qu'on va voir dans cette communication. Et puis de voir aussi, finalement, les appropriations avec deux grandes tendances, disons, une tendance très majoritaire qui est un développement durable mobilisé finalement par les sommets des États, hein, y compris une prise en charge par les chefs d'État et les ministères, donc à une échelle très centralisée, hein, dans les trois pays, donc un développement durable urbain, disons, par le haut, arrimé directement donc aux bailleurs de fonds internationaux. Donc finalement ce côté-là qui peut donner lieu à faire l'hypothèse finalement que le développement durable urbain dans cette tendance finalement concourt au renouvellement, disons, à la mise en scène des régimes autoritaires autour du référentiel et aussi du coup par là même in fine à la conservation, disons, d'un certain ordre. De l'autre côté, l'autre tendance, c'est de voir finalement le développement durable peut-être dans une tendance plus mineure mais néanmoins réelle, mobilisé finalement par ce qu'on a appelé, pour faire simple, des acteurs de changement, disons, essayant donc de mobiliser le référentiel autour de l'idée de changement de pratique, notamment donc en aménagement ou dans les politiques publiques. Et donc cette hypothèse, on va essayer de montrer donc des exemples d'individus et de collectifs, parfois même au sein même des appareils de l'État, ou hors, évidemment, des appareils de l'État, qui sont vecteurs de changement. Voilà. Et puis, on va se poser la question donc, de cette idée donc, de précipitation. Pourquoi précipitation? Puisqu'en fait, on fait tous les trois le constat que dans les trois pays, il y a une appropriation extrêmement rapide de tout ce qui fait actuellement objet de développement durable urbain, en termes de politique publique, en termes de grands processus depuis le changement climatique et ses objets associés, en termes d'écoquartiers autoproclamés, etc. Donc une mobilisation extrêmement rapide dont on va poser la question de finalement si elle s'accompagne d'une réflexivité ou non, disons, d'une remise en cause ou non, finalement, des modèles de développement qui, vous le devinez, sont majoritairement dans ce pays, disons, pour le faire vite, non durable. Je passe la parole, du coup, à Pascal.
Alors, moi, je voulais, là, dans cette première partie de communication, donner quelques éléments pour construire, moins une généalogie, il faut bien le dire, qu'une approche rétrospective de la diffusion, de l'émergence et de la diffusion du développement durable, j'allais dire, dans les trois pays. Donc il y a trois moments de cette diffusion, trois moments et au fond un élément fort, c'est le rôle que va jouer dans ces trois pays l'agenda international environnemental. C'est évident que les pays arabes n'ont pas attendu le sommet de Rio pour prendre conscience de l'importance des questions environnementales, même si c'est de manière inégale. Mais en tout cas, le premier sommet de la Terre en 1972 à Stockholm va marquer l'apparition d'un vocabulaire environnemental et durable au niveau international. Donc, et peu à peu, sur les trois scènes qu'on a explorées, l'institutionnalisation du développement durable va se faire progressivement et donc va être conditionnée par l'agenda international. et puis dorénavant, et à partir de 72, complètement sous sa dépendance. Mais bon, dans les années 70 et jusqu'à la fin des années 90, peu à peu vont se mettre en place des politiques à visée environnementale, que ce soit de gestion, de connaissance des milieux ou des campagnes de sensibilisation. Mais et puis au Maroc, par exemple, dès 72, mais à l'instar de la France, en fait, dans sa relation mimétique avec la France, va se créer un service environnemental au sein du ministère de l'Habitat. Mais le vrai moment clé, au fond, et le moment où on a une corrélation forte entre les agendas internationaux et les agendas nationaux, c'est à partir des années 92, enfin à partir de l'année 92 et du début des années 90, où là, on assiste à une impulsion forte du développement durable par la mise en conformité avec les textes internationaux, la ratification de traités et de conventions, par l'adoption et la traduction dans les politiques nationales d'un certain nombre de règlements. Donc il y a approche très normative, très réglementaire. C'est aussi le moment de l'apport fort de financement, ça c'est pas une nouveauté. Et puis, évidemment, ceux qui vont jouer un rôle fort, c'est les grandes agences internationales et tous les organismes d'expertise qui vont intervenir dans les trois pays. Et c'est le moment aussi où, au fond, on peut constater que le développement durable s'impose alors que dans l'action publique, alors que le domaine environnemental n'est qu'émergent. Et donc là, on va avoir une forme d'acte de co-apprentissage un peu obligé, à la fois sur les questions environnementales et puis sur le développement durable. Bon, ça va de pair un peu comme en Occident, au fond, avec les discours officiels sur la préservation de la nature et sur sa grande vulnérabilité. La phase charnière pour les trois pays se situe à l'orée des années 2000. Là, on voit une accélération des politiques nationales, une traduction plus importante dans les lois, loi sur l'air, loi sur l'eau, loi sur les pesticides, et des formes d'action plus concrètes, et en tout cas une reconnaissance plus appuyée de la durabilité dans les sphères décisionnelles. On a, et là c'est un peu différent selon les pays, au Maroc, à la faveur d'une ouverture démocratique, il y a un glissement d'une approche sectorielle vers une approche plus transversale ou en tout cas plus croisée qui tente d'articuler des problématiques de durabilité, des problématiques territoriales et des stratégies d'aménagement. Ça donnera lieu à une charte, un débat et un schéma d'aménagement. C'est aussi le moment où, au fond, le Maroc essaye d'essaimer, d'expérimenter des politiques ou des éléments venus du Nord, mais je pense que Valérie en reparlera, premier projet de quartier durable, circulaire habitat énergie, donc il y a à la fois une traduction législative et une politique plus articulée entre les différents domaines, et puis un essaimage et une expérimentation. En Syrie, c'est moins vrai, les politiques se concentrent encore sur des grands éléments de rhétorique et de politique plus globale. Mais en tout cas, c'est donc pendant ces années 2000-2010 que l'affirmation de la durabilité se fait plus forte dans les politiques nationales, si ce n'est dans leur traduction concrète. Donc en définitive, ce qu'on peut noter, c'est qu'une matrice discursive commune a été adoptée au cours de ces 30-40 dernières années. L'institutionnalisation s'est faite progressivement à travers un arsenal juridique et réglementaire et qui a contribué à une consolidation plus importante, une consolidation administrative qui constitue, dans nombre de ces régimes, une nouvelle fabrique de légitimité. Deuxième point, on a une continuité dans le temps entre ces pays de la place de l'ingénierie internationale, au-delà de l'agenda, hein, et on a enfin un développement durable urbain institutionnel qui s'affirme par le haut et qui est un des moyens pour ces régimes de capter les ressources, mais aussi d'être contraintes par elles. Cela étant dit, l'agenda international en joue un rôle, les grandes agences internationales, la coopération bilatérale jouent aussi des rôles, mais le développement durable dans ces pays-là est pris aussi dans une constellation d'intérêts et d'engagements plus larges, dont Valérie va vous parler à présent. J'ai raccourci.
Mystère, tu en as pas parlé. Bon, on a vu qu'il y avait une réelle appropriation. Ce sur quoi tu as peut-être pas beaucoup insisté, c'est le fait que le développement durable était très approprié à l'échelle des ministères, avec la mise en place d'un grand nombre de programmes appuyés par la coopération internationale qui joue un rôle d'impulseur, de formation, de culture au sens labour, semage et faire croître. Donc je reviens pas parce que le temps passe vite. Moi je voudrais insister sur deux points qui reviennent plus dans le deuxième point dont a parlé Pierre Arnaud, qui est l'appropriation, le développement durable en acte, l'appropriation à la fois par le haut et par le bas, c'est-à-dire en fait comment ça se passe sur le terrain. Alors la première chose, c'est qu'à l'échelle des régimes, à l'échelle présidentielle, à l'échelle des plus hautes sphères de l'État, on a une réelle appropriation avec des discours très forts et une grande visibilité, un affichage qui peut faire penser en fait que les régimes se saisissent de la notion pour des questions de marketing. En réalité, moi, les choses sont un peu plus complexes, c'est-à-dire qu'on a vraiment une appropriation. Je vais essayer de faire vite, mais si on avait droit à 2 minutes de plus, comme on est un peu plus nombreux, ça serait très gentil.
C'est une autre colloque sur la question de la démocratie.
Bon, voilà. Donc pour faire vite, à la fois ils s'approprient ce concept parce que ça correspond en fait à une vision dans laquelle ils peuvent se reconnaître, ça correspond à une problématisation, et d'autre part parce que ça correspond à des stratégies, à une image qu'ils veulent donner, ce qui fait qu'on a à la fois une réelle adoption de ce concept, mais qui partiellement correspond à un emballage marketing pour donner une image moderne sur un régime vieillissant, mais c'est pas uniquement ça, c'est-à-dire qu'on a réellement une appropriation, et je donnerai là juste le cas de la Syrie où en 2005 on a eu l'adoption de l'économie sociale de marché qui correspond en fait à un compromis entre ceux qui désirent une libéralisation de l'économie et ceux qui voulaient garder une logique plus socialiste de l'économie. Et en fait l'adoption du développement urbain durable dans ses deux premiers piliers, donc social et économique, correspond en fait à une sorte de nécessité pour construire ce nouveau paradigme d'économie sociale de marché, et qui marche bien puisque avec le troisième pilier, celui de l'environnement, a été progressivement et monté progressivement en puissance, comme l'a dit Pascal dans les années 2000.
Bon changement.
Ouais. Alors à l'échelle plus terrain, on a en fait des porteurs de changement. Alors ce qu'on peut dire, c'est que d'une part on a vraiment une prise de, j'ai pas envie de dire de conscience, mais ça correspond à ça, avec des acteurs nationaux et locaux qui innovent, mais sans faire système, sans bien se connaître, en faisant face à des résistances de façon dispersée, avec un peu l'illusion d'un langage commun. Alors, petite typologie, hein, il y a à la fois des centres de recherche comme le HBRC, c'est-à-dire le STB égyptien, des ONG, des associations dans les trois pays, à la fois dans les créneaux traditionnels comme poubelle, pollution de l'eau, ou bien les problématiques plus tendances, comme dirait Pierre Arnaud, avec les énergies renouvelables, covoiturage. Bon, là, on voit des exemples en photo de ces petits acteurs. Mais on a également plus aussi à l'intérieur des institutions, des développeurs, des promoteurs, à l'intérieur des services techniques, au sein des bureaux d'études privés, des bureaux d'études publiques, des professionnels qui soient indépendants, soit au sein d'institutions, donc jouent le rôle de relais, de courroie de transmission, de point d'appui pour la mise en œuvre du développement durable. Et même au Maroc, au sein de l'administration qui est bien formée et qui joue le rôle d'échelon intermédiaire pour impulser ces actions. Alors, ces personnes ne sont pas coordonnées sur le concept. Je ne reviens pas sur une étude qui a montré en Syrie que les programmes en cours à Damas invoquent tous le développement urbain durable, mais en fait, autour d'objectifs très variés. Les uns diront compacité et participation, les autres densité, limiter la croissance, mixité, piétons, le troisième, gouvernance, architecture climatique. C'est-à-dire que chacun, en fait, fait son marché au sein des multiples thèmes que recouvre la question du développement durable, y compris donc la participation en régime autoritaire qui joue un petit rôle quand même. Alors, ces croyants, comme on les a appelés, parce qu'ils sont assez militants, ont en réalité pas mal de difficultés à faire passer le concept. Je conclue sur ça. Et puis, c'est la conclusion de Pierre Amour. J'en ai un peu insupportable aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à la fois, ils ont une volonté de faire changer les choses, et ils font changer les choses, mais cela ne peut marcher que parce que, justement, à l'échelle nationale, il y a des décisions qui vont dans leur sens. Je reviens pas là-dessus. Les résistances sont importantes, elles sont visibles au moment de la mise en œuvre, c'est-à-dire qu'on a des programmes qui insulfent la question de développement durable, mais en fait les projets derrière qui ne suivent pas les programmes. On a des négociations de projets, c'est-à-dire au sein d'un projet, on décide de faire un projet environnemental comme celui sur la photo, là, et finalement, il est complètement matiné de logique de promotion immobilière. Et en fait, là se pose la question. C'est là qu'on peut poser, donc, pour terminer, la question du développement urbain durable en milieu autoritaire, avec le rôle des techniciens, mais aussi l'importance de l'adoption autoritaire de ce concept pour soutenir en quelque sorte ces logiques de terrain. Donc je te laisse terminer en deux mots.
Peut-être une minute, si c'est possible. C'est une minute. J'ai mis trois et conclusion, donc on fait un deux en un. J'avais prévu le coup. DUD sans réflexivité, évidemment, grand questionnement, notamment qu'on retrouve chez Yannick Rumpala, hein, dans son excellent ouvrage, où moi je regardais un peu à travers trois angles d'attaque, donc je les nomme plus que je vais les analyser, sur des exemples de politiques sectorielles où on voit par exemple transport, je prends l'exemple du Caire, vite fait, où on voit très bien mobilité durable, tram, BHNS, le métro, même vélo, etc., sauf qu'on est toujours dans une logique continue en parallèle de très routier. Donc on n'est pas du tout sur une logique systémique comme on va avoir par exemple au nord où on va avoir TCSP, donc transport collectif, mais aussi réduction de la voiture. Mais là on est véritablement sur deux régimes qui coexistent sans remise en question finalement des modes de faire existants. Plan à la stratégie, ça c'est assez intéressant aussi. On voit que la planification évolue énormément sur le registre stratégique. On peut voir un certain nombre d'avancées que je ne vais pas évoquer ici, mais aussi un grand nombre de confusions aussi qui sont faites entre projets et stratégies, finalement entre DUD, mais derrière finalement quelque chose qui est très néolibéral, qui est derrière un grand nombre de stratégies urbaines. Écoquartier aussi, c'est assez amusant donc de voir, ici vous avez des petites images d'écoquartier, aussi bien en Syrie, ici à Damas, l'image de droite, les ateliers MADEC qui sont sur un écoquartier à Casablanca, toujours avec des guillemets, hein, donc le groupe Alliance, ou encore Yvion à Rabat al-Boustan avec le groupe CDG Développement. Donc des écoquartiers, moi, que j'interprète un peu comme une génération un peu spontanée, j'allais dire, qui fleurissent, hein, dans chacun des pays, qui sont sans régime de... Enfin, disons que tout ce qui est certification, tout ce qui est politique publique en lien avec le développement durable sont encore très peu formalisées, voire absentes. Donc on a vraiment des expériences un peu autonomes qui posent question et dont on peut aussi poser la question, c'est une de mes réflexions en cours, sur les sources d'inspiration, sur les circulations. Évidemment, on voit qu'il y a des experts du Nord, notamment de France, mais pas seulement de France, qui viennent et donc qui posent la question aussi des modèles du Nord dans leur possible adaptation ici dans ces pays différents.